Radio Foot International, Annie Gasnier.
Bonjour et merci d'être fidèle au rendez-vous de Radio Foot International sur RFI. Et bien sûr, pour évoquer, on est toujours dans ces journées ou soirées plutôt de Ligue des Champions. Avec la fête européenne de l'Atalanta Bergame hier soir à San Siro, à Milan. Une victoire presque en chantant, en jouant un beau football et sans star de renommée mondiale. Avec sa victoire 4-1 sur Valence, le club italien qui s'installe dans la hiérarchie du calcio vit un rêve éveillé sur la scène européenne et Matteo Cioffi nous racontera cette belle histoire. À Londres, les Spurs, finalistes de cette Ligue des Champions, dominés et battus par une équipe de Leipzig qui semblait leur donner le tournis. Tottenham avait des absences atténuantes, mais les hommes de Mourinho risquent de souffrir au retour en Allemagne. Et à la tête de Leipzig, eh bien, un très jeune entraîneur dont nous vous tracerons le portrait. Et un premier bilan peut-être sur ces soirées, c'est que les petits ont fait des misères aux gros dans ces soirées européennes de Ligue des Champions. Et puis nous évoquerons eh bien, le Paris Saint-Germain. Bonjour Dominique Sévrac.
Bonjour Annie, je sens que ça va tomber sur moi.
Un gros encore sonné, on va dire, battu par Dortmund, mais qui a toutes ses chances évidemment de se qualifier. A-t-on été trop dur avec cette équipe ? Retour en tout cas sur une défaite alors que le ciel s'est assombri ce matin au-dessus du Parc des Princes. On dit qu'un malheur n'arrive jamais seul. Alors, inculpation du président Nasser El-Khelaifi, inculpé par la justice suisse. Et on vous expliquera pourquoi. Donc ça va Dominique ?
Moi ça va.
Dominique Sévrac ?
Moi ça va.
Ça va
et vous Annie ?
Oui. Alors vous étiez avec Hugo Moissonnier. Bonjour Hugo.
Bonjour Annie, bonjour à tous.
On
a fait le 3G
erreur,
en train ensemble. Ouais. Et ensuite on a été à Dortmund.
Voilà.
Au Signal Iduna Park ensemble effectivement.
À Dortmund. Et puis,
nous n'étions pas les seuls.
Ambre, et voilà exactement Ambre Godillon, notre consoeur aussi. Bonjour Ambre.
Bonjour.
Vous étiez aussi dans cette folie du mur jaune.
Ouais. Un peu plus déconfite moi. Mais j'ai gardé espoir.
Vous gardez espoir. Bon, évidemment il faut entretenir, on a 3 semaines pour ça. Bonjour Nabil Djellit.
Salut Annie, salut à tous, bonjour.
Bonjour, notre ami de France Football, vous vous froncez les sourcils.
Non, mais je me dis qu'ils ont quand même eu la chance d'avoir pu vivre ça, une telle ambiance. Ah. Quand on, au-delà du contenu et du match, quand même, un stade, c'est pas, en Europe, c'est pas un stade qui est anodin.
Bah, l'endroit où je suis le mieux, c'est ici, Nabil, mais c'est vrai que là-bas, c'est pas mal aussi.
C'était pas mal. C'était
quelque chose à vivre,
bien sûr.
Au-delà du.
Bien sûr.
Les déplacements européens, globalement, c'est génial à vivre.
Ouais. Et surtout là. Mais je crois que du côté de l'Atalante, c'était pas mal non plus. Et on va parler. En parler. Radio Foot, c'est parti.
Papou Gomez, on ne sait jamais ce qu'il va faire. Oh, le centre, il est génial, c'est au fond. C'est but. Ouverture du score, Hans Attebourg, qui était là au deuxième. C'est au fond, l'Atalanta passe devant. La semaine, Linicic, bah oui, il va frapper évidemment, mais oui. Mais quelle défense. C'est absolument impensable de défendre comme ça. Une récupération intéressante, il peut frapper, elle est super. Quelle est belle. Quel envoi splendide. Raymond Freuler. Et c'est 3-0. La feinte d'Ilicic, mais est-ce qu'il n'est pas dans la zone d'influence? En l'occurrence, la frappe est au fond. But d'Attebourg, doublé. Attention à Cheryshev, peut-être. Oh, qu'il est beau. Eh bien, voilà la réduction du score.
Affischiato in bocca Oliver. Palla per De Ronda. Che povero San Siro. Impresa dell'Atalanta. Anche se adesso ci sarà il ritorno. 4-1 alla Valencia.
Une nuit mémorable et inoubliable pour les supporters de la DS. Le club de l'Atalanta de Bergame a fait une entrée fracassante dans la phase éliminatoire de la Ligue des Champions en remportant avec panache son premier match de l'histoire de ce club italien, donc dans les huitièmes de finale de Ligue des Champions. En plus, dans un stade qui n'était pas le sien, l'Atalanta jouait à San Siro, dans le fameux stade de Milan, mais son enceinte plus petite, celle que vous connaissez donc, Nabil Djellit, eh bien, elle n'est pas encore ou pas vraiment aux normes UEFA, en tout cas, ou peut-être que la recette aussi serait plus importante dans le stade d'à côté. Les joueurs ne se sont donc pas laissés impressionner et ils étaient en bonne compagnie, ces joueurs. Bonjour Matteo Cioffi.
Bonjour Annie, en effet, j'étais là.
Matteo, vous y étiez effectivement en bonne compagnie, mais il y avait surtout beaucoup, beaucoup de gens venus de Bergame.
Il y avait une ambiance vraiment magnifique. Imaginez-vous que la ville de Bergen compte plus ou moins 120 000 habitants et qu'hier, dans la tribune, il y avait un peu plus de 45 000 supporters. On peut donc estimer qu'un Bengamasque sur trois était présent au stade pour encourager sa déesse. Et ça a été vraiment une fête pour ses supporters qui sont connus pour être très chauds et ils l'ont confirmé même hier soir. Il faut savoir que la ville de Bergen vit depuis toujours un lien très fort avec son club de football. En plus, ce match avait été annoncé comme un match historique. Donc, il y avait vraiment un énorme enthousiasme. Personnellement, j'ai eu la sensation que ce défi, dans un tel contexte de passion, ne pouvait pas tourner mal pour l'Atalanta.
Ah ben oui, ça a été la fête. Et d'ailleurs, cette victoire a impressionné la presse italienne, Matteo.
Vous savez quoi, depuis quelques saisons, la presse italienne aime décrire l'Atalanta comme l'équipe de tout un pays. Et on la traite un peu comme la nationale, et même si c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de joueurs italiens qui jouent. C'est donc normal qu'à chaque victoire de ce club, les médias exultent. Gazzetta dello Sport ce matin a titré Divina Des. Tutto Sport à son tour a parlé de paradis Atalanta. Pour le Corriere della Sera, le moment est propice pour proclamer à voix haute que l'Atalanta est la plus grande révélation du football européen. Et hier, la chaîne de télévision Sky Sport a comparé le jeu de Gasperini à celui de Jürgen Klopp, comme à dire que l'Atalanta est le Liverpool d'Italie.
Oui, c'est ce qu'on va voir. En tout cas, ce club, on a l'impression qu'il fait les choses à son rythme, en tout cas, step by step, comme on dit. L'an dernier, il s'était déjà permis de bousculer l'ordre établi dans ce calcio. Souvent, l'équipe de Turin et puis celle de Rome et celle de Milan. Cette équipe de l'Atalanta avait terminé troisième. Actuellement, elle se bat et elle est quatrième du classement avec une meilleure attaque. On y reviendra. 63 buts déjà inscrits dans le calcio. Et écoutons justement l'entraîneur, un entraîneur heureux, Gian Piero Gasperini, notamment parce que ses joueurs, eh bien, ils l'écoutent.
Réussir à attirer tous ces gens dans ce stade magnifique et avec autant d'enthousiasme, c'est tout bonnement quelque chose d'extraordinaire. On voulait vraiment réussir à gagner cette rencontre, mais on n'imaginait pas un tel score. Je crois donc qu'on se souviendra longtemps de cette soirée. Ce résultat représente vraiment le plus beau cadeau que la ville de Bergame s'est offert.
Que tutta Bergamo s'est fatta. Un entraîneur donc heureux de ce match et du match de ses joueurs, Nabil, c'est vraiment hier, ça a tourné presque à la démonstration face à Valence pourtant.
Oui, même si sur la fin Valence aurait pu espérer niveler la marque, mais il y avait Golini dans les buts qui a été assez remarquable, il a fait une parade incroyable. L'Atalanta, on la suit ici, c'est une surprise sans être une surprise en fait. Oui, c'est une surprise parce que c'est pas un grand nom du football européen, mais rationnellement sur ce qu'ils font ces dernières saisons, on voit une montée en puissance, on voit un modèle clair.
Oui, mais c'est la première fois qu'on les voyait à ce niveau, c'est pour ça que on est d'autant plus surpris qu'ils aient pas été ni intimidés, disons.
Non, c'est sûr. Après, je vais pas relativiser ce qu'ils ont fait. On va dire qu'ils ont eu aussi un tirage presque clément à ce niveau quand même de la compétition.
On disait qu'hier, dans Radio Foot, au moins, c'était peut-être une affiche équilibrée.
Oui, c'est-à-dire que c'est une équipe qu'ils peuvent regarder dans les yeux. Mais sauf que sur les deux dernières saisons, par exemple, quand ils croisent la Juve, ils les mettent en difficulté. On les a vus face à l'Inter, ils les ont mis en difficulté. Donc, ils peuvent aussi avoir du répondant contre des grosses écuries. Je veux dire, c'est un cadeau sans être un cadeau, l'Atalanta. Je veux dire, en plus, ils sont sans pression. Je veux dire, ce qu'ils réalisent, c'est extraordinaire. Mm-hmm. Ils sont pas favoris. Et clairement, on verra au match retour parce que Valence va récupérer quand même des joueurs majeurs. Il manquait quand même Rodrigo hier qui aurait pu être efficace dans les 30 derniers mètres. C'est une équipe qui est partie pour être en quart de finale. Alors, vous allez me dire, chaque année en Ligue des Champions, vous pouvez avoir une équipe qui peut venir s'immiscer en quart, voire en demi. On l'a vu par
on
le passé.
À l'Ajax,
non, mais ce qui est remarquable, c'est que il n'y a pas de nom dans cette équipe. Enfin, il y a des bons joueurs, mais
faites un
sondage. Est-ce qu'il y a des stars? Il n'y a pas de stars. C'est ça.
Il y a des bons joueurs.
Il y a des bons joueurs, souvent des joueurs ensuite qui s'exportent, qui sont bien vendus. Et ensuite, vous avez quand même des joueurs qui incarnent quand même l'esprit de cet Atalanta. Par exemple, Papu Gomez, l'Argentin, ça fait plusieurs saisons qu'il est là. Il a été international argentin, il avait été appelé par Sampaoli. Lui est resté. Il aurait pu très bien aller dans un meilleur club européen ou un meilleur club italien. Donc c'est aussi un état d'esprit, l'Atalanta. C'est aussi ça qui est récompensé.
Il y a Zapata aussi,
Duvan Zapata, qui n'est même pas titulaire à l'international.
Exactement, il est rentré en cours de match.
Il a été blessé en première partie, de saison. Mais ensuite, ils sont intelligents, ils vont recruter dans les pays de l'Est. Parfois, ils ont une appétence aussi pour les joueurs africains. Tout à l'heure, Dominique parlait de Kessier qui est passé par là, l'international ivoirien qui est passé par là. Moi, j'avais été au stade, j'avais croisé à l'époque, ils avaient recruté le Sénégalais Boukari Dramé. Donc, c'est aussi une équipe qui est intelligente. Et là, ils viennent de prendre le Franco-Camerounais, même s'il n'a pas encore vraiment joué avec les Lions indomptables. Tamézé, qui est rentré en cours de match. Donc voilà, c'est une équipe qui ne fait pas de folie, qui recrute des joueurs entre 10 et 15 millions d'euros, qui fait des bons coups parfois avec des joueurs libres, qui leur propose un projet sportif cohérent, mais elle tient aussi beaucoup, et vous l'avez dit, sur Gasperini, qui est l'âme de cette Atalanta.
Hugo ?
Oui, sur Gasperini, en plus, c'est une petite revanche pour lui d'aller briller à San Siro, parce qu'il avait entraîné l'Inter Milan.
Oui, ça s'est mal passé.
L'expérience, c'était il y a un peu moins de 10 ans, en 2011, c'était après l'Inter de Mourinho et l'Inter d'Eto, et ça s'était assez mal passé du côté de l'Inter Milan. Il était resté que quelques matchs, il s'était complètement planté, entre guillemets, pour cet entraîneur qui a plutôt réussi sur le banc du Genoa avant de réussir
sur
le banc de
l'Atalanta.
C'est plutôt un entraîneur de petit club, ouais, entre guillemets, de club outsider.
Ou peut-être un entraîneur qui a du mal avec certains égos et qui travaille plus facilement avec des groupes, voilà, avec des joueurs intermédiaires plus. Et au Genoa, il a eu le mérite notamment de relancer la carrière de Thiago Motta.
Matteo, vous confirmez ce qu'on dit sur cet entraîneur Gasperini ?
Tout à fait. Je voulais vous rappeler qu'en effet, Gasperini était, avant de faire, disons, son début à l'Atalanta, était connu pour son affreuse expérience à l'Inter. 4 matchs, 3 défaites et un match nul. Si vous parlez de Gasperini au supporter de l'Inter, vous verrez qu'ils n'ont pas les mêmes réactions des tifosi de l'Atalanta. Bon, pour ceux qui est du match de hier, tactiquement, il faut une nouvelle fois reconnaître un grand mérite à cet entraîneur qui sait vraiment comment surprendre. Hier, il a renoncé en avant-centre pour confondre la défense valencienne. Le technicien donc préférait miser sur un schéma plus libre et moins rigide avec ce Farson Wave, ce fou avant-centre présenté par Josep Ilić, qui est un joker. Il est vraiment capable de jouer tout le temps dans une position qui change à tout moment sur le terrain. C'est quelque chose vraiment d'incroyable, ce joueur. Et à mon avis, très, très sous-estimé jusqu'à maintenant.
Ouais. Dominique, ça vous a plu, ce Atalanta-Valence, qui était, on le disait hier dans Radio Foot, c'était pas l'affiche la plus attrayante a priori. Et puis finalement, ça s'est révélé, en tout cas, plein de ferveur.
Bah, avec un système à 3 derrière qui a fonctionné en plus. Ça doit vous inspirer, ça.
Vous voulez dire que ça, parfois ça peut marcher,
Hugo. Apparemment.
Non, mais ce que j'aime, c'est que ça met à mal toutes les théories qu'on entend habituellement, qu'il faut de l'expérience, par exemple, en Ligue des Champions, j'entends souvent ça.
Qu'il faut les moyens.
C'est une idée contre laquelle je lutte, parce que l'Ajax d'Amsterdam est allé en demi-finale l'année dernière, c'était une jeune équipe, il n'avait aucune expérience.
C'est un grand club, comme on disait ce matin.
C'est un grand club, mais il faut aussi avoir la grande équipe qui va avec. Et donc voilà, encore une fois, la Ligue des Champions, c'est les équipes ont à peu près un niveau à peu près similaire, mais il y a une question d'état d'esprit. Et on l'a ou on l'a pas. Et je connais un club, on va en parler, qui ne met pas souvent. Et je vois des équipes qui jouent complètement libérées. Et ça change tout, parce que
un peu la fleur au fusil, finalement, ça peut réussir.
En fait, c'est un peu l'anti-football italien, l'anti-ADN du football italien. C'est très offensif. C'est la meilleure attaque du championnat, vous l'avez rappelé. Et ils arrivent à mener de front et le championnat et la Ligue des Champions, parce qu'ils vont sûrement aller en quart de finale. Et ils sont quand même dans les 4 places qualificatives pour la prochaine Ligue des Champions.
Et en plus, en Ligue des Champions, ils ont marqué 12 buts et c'est 10 joueurs différents qui ont marqué. Donc c'est vrai que ça illustre.
Et de même que l'Ajax, on ne sait pas où ça va s'arrêter en fait. Mm-hmm. Là, je pense qu'ils vont aller en quart et personne ne peut dire ah oui, il faut tomber sur l'Atalanta en quart.
C'est comme Dortmund, on ne sait pas où ça va s'arrêter.
Ou Paris.
Le 11 mars prochain peut-être.
Matteo, encore une chose sur cet Atalanta. Racontez-nous qui est le président de cette équipe, parce que il fuit un peu les journalistes. Peu le connaissent et pourtant c'est quelqu'un d'important.
Oui, c'est quelqu'un d'important. Il s'appelle Antonio Precas, il a 66 ans et c'est un ancien footballeur de la même Atalanta où il a joué dans les années 70. pour ensuite, il a joué seulement une dizaine d'années. Ensuite, il est devenu un entrepreneur de succès dans le secteur, surtout immobilier. En 1990, il est devenu président de l'Atalante, mais il a quitté son poste 4 ans plus tard, car en désaccord total avec les autres dirigeants du club. Il est ensuite revenu en 2010, lorsqu'il a acheté au 100% le club. Et là, il a commencé à investir surtout dans les secteurs plus jeunes de l'Atalante. Percassi est riche, car c'est grâce à lui si des fameuses chaînes de restaurants et marques d'événements ont ouvert leur propre magasin en Italie. Par exemple, celui qui a géré l'arrivée en Italie il y a 2 ans du géant du café Starbucks. Donc, c'est quoi sa stratégie? Investir sur les jeunes qui se forment au club et en même temps aller chercher les bons joueurs, pas forcément connus, aux quatre coins du monde. Et pour cela, il s'est confié à Giovanni Sartori, qui est un des dirigeants plus apprécié du calcio en Italie.
Et alors pour terminer, Matteo, vous avez quelques chiffres que vous avez trouvés très intéressants pour montrer que l'Atalanta est vraiment bien la réalité du football italien du moment.
Oui, les 10 joueurs différents qu'ils ont marqués en Ligue des Champions, vous les avez dit. Pour ce qui concerne les buts, ils en ont marqué 63. Et en Europe, si on prend les 5 championnats plus importants, seulement Manchester City avec 65 réalisations et PSG 67 buts, on fait de mieux. Puis encore, c'est l'équipe qui a la meilleure moyenne de tirs vers le but adversaire, 17,7 par rencontre. À mon avis, c'est énorme. Ouais. Et en plus, comme passe décisive, elle est derrière seulement au PSG et au Bayern de Munich.
Finalement, cette équipe en gagnant 4-1 à domicile, Ambre, elle a de grandes chances de se qualifier, même si à Mestalla, au retour, ouais, on sait que ça peut être hyper chaud.
Alors moi, je me méfierais déjà parce que la Ligue
c'est
des
le pays
Champions...
de la remontada, oui, du puis... mot remontada.
Oui, c'est vrai. Mais surtout parce que la Ligue des Champions, c'est une leçon chaque année pour nous montrer que tout est irrationnel et qu'aucun pronostic, la plupart du temps, le coup près tombe au match retour. Donc très, très difficile de se projeter, de tirer des enseignements d'un match aller, même si c'est vrai que moi aussi, j'ai pris un plaisir génial. C'est football total, tout vers l'avant. Ça fait plaisir, mais ce jeu, forcément le pendant, c'est qu'elle s'expose énormément, c'est que derrière il y a des espaces et que Valence, faut aussi le rappeler, c'est la 15e défense de Liga, ils n'ont pas profité eux des espaces qu'ils avaient, ils ont manqué cruellement de réalisme et face à une équipe peut-être de Valence un peu plus réaliste, comme le disait Nabil, avec peut-être des retours de...
Oui, il y a Rodrigo qui est quand même le meilleur joueur de Valence. Alors effectivement,
chez eux, ça peut offrir une autre opposition. Quand même.
Après, cette équipe de Bergame, elle est caméléon. Elle sait aussi également bien défendre. J'avais croisé Marez cette année, là, il y a quelques mois. Il les avait joués en Ligue des Champions. Je crois que c'était le lendemain du match ou quelque chose comme ça. Il était hyper fatigué parce que le score était absolument trompeur. Ils avaient gagné 5-1 au retour. Ils avaient fait un partout. Mais ils avaient expliqué que c'était extrêmement compliqué, qu'ils avaient mis très longtemps avant d'avoir trouvé la solution. Donc c'est aussi une équipe...
En Liga, c'est un stade où c'est toujours compliqué pour les adversaires d'aller
c'est
jouer.
C'est aussi une équipe qui sait défendre l'Atalanta. Donc,
et qui est dans la débauche d'énergie aussi, vraiment, 90 minutes.
Franchement, on n'est pas là pour être partisan et tout, mais sur ce qu'ils proposent et tout, j'espère qu'ils vont passer, parce qu'il y a aussi des profils intéressants. Ilic, là, dont on parle il y a 32 ans, voilà, c'est aussi des joueurs qui arrivent peut-être... qui rayonnent.
En Italie, on ne renonce pas face à des bons joueurs, même s'ils ont un certain âge.
Vous voulez parler de Thiago Silva, là?
J'en ai d'autres en tête. Un certain CR7.
Et un certain Zlatan.
Oui,
exemple.
En plus. Et puis, on se souvient de Pirlo à l'époque qui avait joué longtemps. Mais Dominique, Valence, c'est vrai que c'est eux qui, entre guillemets, nous ont privés dans la phase éliminatoire de l'Ajax. Et on aurait peut-être envie que l'Atalanta, justement, les remplace, peut-être.
C'est-à-dire que Ambre a complètement raison. Hein. C'est totalement irrationnel. Et tous les renversements sont possibles. La dernière édition de Ligue des Champions nous a appris nous a ramené à l'humilité. Mais c'est vrai qu'on va être tous pour l'Atalanta, en fait, parce que c'est le petit poussé.
Le spectacle.
C'est un petit peu le petit poussé de cette épreuve. Et notre penchant naturel, c'est d'aimer le faible ou le plus fragile face au puissant. Quoi.
Le spectacle,
la fraîcheur aussi. La fraîcheur qu'il propose.
Et évidemment, ce qu'il propose en termes de football, parce que c'est vachement réjouissant.
Après, c'est pas mal Valence aussi, parce que même si c'est plus un grand d'Espagne, c'est plus le Valence des années 2000, en termes de football, c'est un 4-4-2 qui est bien huilés. Hier, effectivement, ils ont été débordés. À un moment, ils auraient pu revenir.
Quand tu regardes la Liga, tu t'éclates pas tout le temps en regardant Valence.
Non, mais...
cette année, tu regardes la Serie A, tu prends ton pied en regardant l'Atalanta. Il y a pas deux matchs où ils proposent pas vraiment du spectacle.
Oui, après, moi, j'aime bien quand même cette équipe de Valence parce qu'il y a quand même de la qualité. Il y a des très bons joueurs.
Il
manque quand même leur axe central hier. Ils ont joué sans Garay, l'Argentin, qui est un véritable boucher. Et à mon avis, ce serait peut-être pas passé. Lui, il rigole pas. Garay, il est passé par le Real quand il était jeune, Benfica. Gaïa à gauche, c'est bien aussi. Et puis leur doublette devant avec Rodrigo et Guedes, c'est quand même intéressant. Et on n'oublie pas non plus le rôle de l'international centrafricain qui s'est stabilisé, qui est bon depuis plusieurs saisons. C'est Kondogbia du côté de Valence. Donc Valence a quand même des arguments à faire valoir.
Hugo ?
Oui, moi je suis Ambre et Dominique sur l'idée que au moins cette équipe, quoi qu'il arrive, elle aura procuré des émotions en phase de groupe comme en huitième de finale aller. Elle aura assumé son identité de jeu, donc ça c'est quand même intéressant. Et puis elle aura remis en cause peut-être une vérité qu'on tient pour trop acquise parfois, celle qu'il faut de l'expérience pour performer en Ligue des Champions. On en parle souvent dans le cas du Paris Saint-Germain. Il faut soit des joueurs d'expérience, soit une expérience d'équipe au niveau européen, soit une expérience de club. Elle n'a rien de tout ça, cette équipe de l'Atalanta, et pourtant elle a fièrement porté ses couleurs hier en huitième de finale aller. Donc quoi qu'il arrive, cette campagne elle est extrêmement réussie.
Ouais, et je trouve ça intéressant que justement on soulève l'idée à la fois des forces mentales et de la phase de groupe, parce que c'est vrai, je trouve que c'est là aussi qu'elle a puisé la jeunesse de ce qu'elle propose aujourd'hui. L'Atalanta a quand même commencé cette phase de groupe en mettant un pied pour la première fois dans la Ligue des Champions avec 3 défaites. On se dit bah ça y est, le coup près de l'expérience tombe, de la Ligue des Champions, de la pression, et puis depuis ils n'ont plus perdu.
Exactement.
Et voilà, ils enchaînent, et c'est peut-être de là qu'ils puisent aussi
et
les forces mentales.
Et en championnat ils sont aussi bien remontés. Mathéo, la DS se voit-elle déjà en quart de finale, ou sont-ils prudents, nos confrères italiens et vous, donc.
La troisième personne.
il est bon, Dominique.
Bah alors, je vous explique une chose. Les habitants de Bergame sont connus aussi pour être très méthodiques et en même temps très prudents. Donc, on les a entendus hier après le match. Ils disaient « Mince, ce but-là, il va nous agacer, il va nous agacer ». C'est vrai que ce but permet aux Espagnols de pouvoir y croire jusqu'à la fin. Mais je voulais seulement dire une chose. Je voulais vous donner une statistique. Dans le championnat italien, l'Atalanta réussit mieux à l'extérieur plutôt qu'à domicile. À domicile, cette année, ils ont perdu 4 matchs, tandis qu'à l'extérieur, ils en ont perdu seulement 1 et ils en ont gagné 7. Donc, attention à l'Atalanta à l'extérieur, parce que ça ne change pas beaucoup s'ils jouent à Bergame ou à San Siro, plutôt qu'à l'extérieur. Ils ont vraiment une mentalité de gagnant. Donc, où ils vont, ils ne se font pas trop de soucis s'ils sont là, à domicile.
Ils seront toujours à l'extérieur désormais, puisque San Siro, c'est pas chez eux.
Oh, 40 km, non ?
35.
Mais il ne faut pas le dire aux supporters de l'AC Milan et de l'Inter qui sont assez énervés par la présence des supporters de Bergame. Il y a une grosse rivalité entre les supporters de la ville de Milan et ceux de l'Atalanta.
Et oui, parce qu'il n'y a ni l'Inter ni le Milan AC à ce niveau de la compétition.
Ah, c'est de leur faute.
Eh bien, Mathéo, on reparlera de l'Atalanta avec vous et grâce à vous, alors. À très bientôt.
J'espère bien.
Grazie, à bientôt. Les Babyface, comme chantait Little Richard en 1958. Les Babyface allemands sont à la mode dans ces huitièmes de finale. Mardi soir à Dortmund, Messi, vous étiez là au bord de la pelouse, vous. Un cyborg nommé Haaland, n'est-ce pas, a été le tourment des Parisiens du PSG. Et hier soir, eh bien, c'était un entraîneur de 32 ans qui, avec sa fougueuse équipe de Leipzig, s'est permis d'aller battre à Londres le finaliste de la Ligue des Champions, emmené par un certain José Mourinho. Ce babyface s'appelle Julian Nagelsmann, mais nous vous dirons tout sur lui, notamment Hugo, d'ici quelques secondes. On a hâte. Avant, revenons sur...
Pour moi, c'est un vieillard, Nagelsmann. Il a au moins quelques mois de plus que moi.
Sur la défaite de Tottenham à domicile, donc face à Leipzig. It's Werner against Lloris. It's 1-0 to RB Leipzig.
And it's Timo Werner once again, goal number 26 of the season for him. And it is a goal that their play thoroughly deserves on the night.
Let's welcome to the stage my herd of Red Bulls.
C'est du rap allemand.
Pardon ?
C'est du rap allemand ?
Oui, oui, bien
c'est
sûr.
C'est très sympa.
C'est une chanson sur Leipzig.
Ah, bah franchement, c'est, hein, c'est cool.
Sur le club allemand. Et ce qu'on
Nabil,
entendait...
descend de la table, s'il te plaît.
Et ce qu'on entendait au début, c'était les supporters qui étaient dans une rue de Londres hier et qui regardaient passer les double deckers, hein, ces bus rouges de Londres et qui eh bien, chantaient leur joie par rapport à leur équipe. Donc, c'est sur un pénalty, on l'entendait, tiré par Timo Werner, que s'est inscrite cette victoire. Un seul but à zéro, peut-être Ambre, mais quand même avec une certaine manière, avec la manière, je dirais, même si Hugo Lloris a beaucoup sauvé son équipe.
Et oui.
Mais là, sur le pénalty, un peu les yeux fermés, Timo Werner, il a eu une manière assez sidérante de le tirer, mais en tout cas, il l'a inscrit.
Bah, disons que le contraste était flagrant entre un entraîneur ultra expérimenté, 25 ans le sépare avec son jeune
Dominique Weil, son jeune élève, voilà. L'expérience face à la jeunesse.
Bah oui, non mais donc on s'attendait à un Mourinho qui est quand même très rodé à l'exercice de la Ligue des Champions et qui finalement l'équipe
ça,
s'est fait prendre à la gorge, je veux dire ils se sont fait manger dans l'intensité, dans le pressing, tactiquement, dans la créativité aussi parce que Tottenham n'a quasi rien proposé à part le dernier quart d'heure peut-être et encore il peut remercier en effet un grand Hugo Lloris qui l'a sauvé et le poteau aussi qui l'a sauvé. Qui l'a sauvé quelques fois. Ils n'ont pas proposé grand-chose et en face, c'est vrai que bon, on a eu tout. Alors là, c'est vrai que le score n'est pas le même que l'Atalanta, mais dans le jeu, ils ont proposé. Il y avait quand même deux classes d'écart. Alors après, on verra si au match retour, Mourinho aura les armes pour répondre. Mais à part le jeu long, les coups de pied arrêtés, ça a manqué cruellement de propositions dans le jeu. C'est du grand Mourinho finalement, peut-être essayer de tenir un score à la maison.
Alors Dominique, c'est vrai que Mourinho avait compté beaucoup d'absents, mais d'abord parlons peut-être cette victoire de Leipzig, parce que Leipzig, c'est peut-être un autre Dortmund.
Je crois que c'est Nabil tout à l'heure qui parlait de projet cohérent concernant l'Atalanta Bergame. C'est pareil pour Leipzig, c'est un projet très cohérent qu'on connaît depuis plusieurs années.
Un club très récent, créé en 2009.
Et qui est moins apprécié dans son propre pays. C'est la grande différence avec l'Atalanta, le projet de Leipzig, pour
un
tas de raisons. Et parce que c'est un club sans histoire. Mm-hmm.
Mais en tout cas, le projet consiste à plutôt prendre des jeunes et pas trop chers quand même et à les faire grandir au club.
Oui, ou qui arrivent de Salzbourg.
Voilà.
Dans l'antichambre.
Voilà, exactement. L'autre club détenu par la boisson énergisante qui sponsorise le club.
Vous savez qu'ils n'ont pas le droit de donner ce nom-là au club.
C'est un autre nom du côté de Salzbourg.
C'est le Rasenballsport.
Tout à fait.
Leipzig. Mais, et non pas autre chose.
Ça, c'est les règles de l'UEFA qui sont strictes. Hein, parce qu'on prenait
l'UEFA, le stade porte bien le nom de la boisson, d'ailleurs.
Mais bon. Donc voilà, c'est une belle équipe qu'on a vue contre Lyon lors de la phase de poule. Mm-hmm. Donc ça me fait penser au passage que, parce que Lyon va bientôt jouer son huitième contre la Juve et personne ne donne évidemment Lyon capable de battre la Juve. Bah non, il faut y croire en fait. La Ligue des Champions.
Il faut pas
nous
parier,
prouve.
Dominique. Enfin, ouais.
Faut y croire quand t'as des raisons d'y croire.
Mais non,
Dominique, j'entends ce que tu dis.
Les résultats de cette semaine, on va globaliser, mais ça nous montre que moi j'aurais pas misé sur une victoire de Leipzig.
Bah, moi j'aurais misé.
Après, en face, Tottenham manquait quand même de deux avant-centres. Voilà, que sont Kane et Son, quoi qu'il arrive, déjà ils partaient avec une béquille.
Oui,
quand même.
Mais c'est le finaliste de la Ligue des Champions. Je me dis quand même qu'il reste quelque chose. Ils ont changé d'entraîneur.
De manière très rationnelle, actuellement.
Mais il y a sept joueurs en moins par rapport dans l'équipe de Tottenham par rapport à la finale.
Alors,
quand même
déjà,
c'est énorme.
Bon, Tottenham ils sont amoindris, ils font une saison moyenne. Avant ils étaient quatre fantastiques à Tottenham, il y en a plus qu'un seul. Il y avait Eriksen, il est parti. Kane, il est blessé. Son, il est blessé. Et le quatrième qui était sur le terrain là, Dele Alli, il était là. Donc déjà, c'est vrai que c'est une équipe qui a amoindri. Ensuite, ce qu'il faut pas oublier au niveau du Red Bull, du RB Leipzig, c'est qu'aujourd'hui et actuellement, c'est quand même une équipe qui matche le Bayern de Munich dans son championnat.
Parlez-moi de Leipzig.
Ils sont à un point du Bayern.
Voilà, c'est une équipe qui joue bien, qui a des circuits préférentiels qui sont clairs. Ils ont mis un bouillon hier. Ils avaient mis un bouillon à Lyon à l'aller. C'était un miracle le 0-2 de Silvinho. Certes, il a un hold-up parfait.
Ça arrive.
Il y a des joueurs.
Il
y a des joueurs à fort potentiel. Il y a aussi des très bons joueurs déjà confirmés. Werner, il marque sur penalty, mais il a quand même encore une fois vendangé. C'est peut-être un peu les limites. Et là où Leipzig a été bon par rapport aux autres fois, c'est que sur ses temps faibles, elle n'a pas encaissé. Parce que c'est souvent une équipe qui se procure beaucoup d'occasions, qui n'a pas toujours le taux d'efficacité au rendez-vous. Mais là, quand sur la fin, elle a commencé un petit peu à être bousculée, ça a commencé à passer sur les côtés avec un bon Serge Aurier, un des moins mauvais, j'ai trouvé, du côté de Tottenham. elle a résisté avec un gardien qui a été au rendez-vous. C'est une équipe qui joue super bien. Hier, on oublie de le dire également, ils jouaient sans leur charnière centrale. Il manquait trois joueurs. Il manquait Upamecano d'Ayo, Konaté, deux Français au passage,
ouais, je connais.
Et un troisième défenseur, Orban. Ils ont joué sans leurs trois défenseurs habituels. Et même comme
donc ça va être pire,
ils ont imposé leur jeu avec de la possession, avec de la fluidité, avec des joueurs qui
des
prenaient les intervalles. Ben
voilà, c'est pour ça qu'il faut pas minimiser.
Et donc il y avait absolument pas photo.
En disant que et il y avait absolument pas amoindri ou qu'il
non, non, mais il y avait absolument
des joueurs. Faut saluer la bonne prestation de Leipzig qui était capable de faire ça.
C'est absolument pas une surprise que Tottenham se soit fait balader. Parce que Tottenham, cette année, ils sont claqués.
Sur les noms, c'était pas ce qu'on attendait.
Ils étaient amoindris. Ambre, ce qui est amusant, Nabil cite Serge Aurier, c'est qu'on a compté 5 joueurs anciens parisiens ou liés au Paris Saint-Germain hier sur cette pelouse. Il y avait Lo Celso, Lucas, Aurier. Et de l'autre côté, il y avait Nkunku. Et puis un certain Patrick Schick qui a été formé. Au Paris Saint-Germain, d'après ce que disaient certains.
Ah bon?
Chic, il a été contacté par le Paris Saint-Germain.
Contacté, alors. Ah ouais. Bon, voilà.
Parce qu'il est passé par la Sampdoria et la Roma.
La saison dernière, Lucas a bien réussi à faire une finale de Ligue des Champions au Henné et à la barbe de son ancienne équipe. Donc,
il a marqué un triplé en demi-finale.
Mais c'est pas la même équipe, que l'année dernière.
Oui, mais ça prouve clairement. Par exemple, aussi du côté de Leipzig, qu'on peut faire des choses extraordinaires avec des joueurs. Parce que là, on parle, même si Nabil, tu dis qu'il y a des joueurs expérimentés dans cette équipe, attention, il n'y a pas un seul trentenaire, par exemple. C'est aussi la force pour moi de cet entraîneur avec cette équipe, c'est la greffe qui a pris entre deux projets et un club également qui est jeune, c'est-à-dire que tout le monde va dans la même direction, essayer d'apporter quelque chose de nouveau sur la scène européenne.
Voilà un autre jeune qui va prendre le micro, c'est Hugo Moissonnier. Hugo, Julian Nagelsmann, cet entraîneur plein de fougue à la baguette de cette équipe, dites-nous qui c'est, parce que c'est vrai qu'à 32 ans, on se dit qu'est-ce qui lui est arrivé.
C'est littéralement un entraîneur exceptionnel au sens le plus neutre du terme, puisqu'il réalise ce que personne n'avait réalisé avant lui. On va revenir au début. Il est né en 1987, Nagelsmann. Il aurait pu devenir un bon joueur de football. Il aurait pu jouer au plus haut niveau en tant que défenseur central, mais des blessures l'ont obligé à mettre un terme à sa carrière alors qu'il évoluait au sein d'une équipe de jeunes du côté d'Augsbourg. Il me semble que l'entraîneur d'Augsbourg, à l'époque, se nommait...
Tuchel, non ?
Exactement. Thomas Tuchel, voilà, ça nous lie au prochain sujet, effectivement, le pauvre Thomas Tuchel.
Mais ça montre l'éclosion très très rapide, parce que Tuchel est un entraîneur jeune, justement.
Exactement. Mais pour Nagelsmann, ça va être encore plus précoce, hein, puisque après donc cette carrière avortée, ce début de carrière avortée, il va donc se tourner vers le coaching au sein d'équipes de jeunes. Normal, on va pas tout de suite lui confier une équipe A, mais quand même, tout ça va arriver très très vite. À 28 ans, il devient le plus jeune entraîneur de l'histoire de la Bundesliga sur le banc d'Offenheim. Avec Offenheim, il va deux fois atteindre le top 4, la quatrième place du classement en Bundesliga. D'abord, il les sauve de la relégation, puis ensuite, il les amène très haut au classement, ce qui va lui permettre de jouer la Ligue des Champions. Il devient donc l'année dernière le plus jeune entraîneur de l'histoire de la Ligue des Champions. Il a 31 ans et deux mois environ au moment où il aborde cette Ligue des Champions. Il va affronter Lyon, notamment l'OL. Et puis hier, puisqu'il a rejoint Leipzig l'été dernier, il est devenu sur le banc du RB Leipzig à 32 ans et 211 jours. C'est très précis, le plus jeune entraîneur officier dans une rencontre à élimination directe dans cette même Ligue des Champions concernant ses principes. Il est réputé très exigeant, très pointilleux à l'entraînement. Il demande beaucoup à ses joueurs. Gros pressing, jeu très offensif. Donc tout ça, on l'a dit. Maintenant, à voir ce qu'il donnera à l'avenir sur le banc d'un très grand club. Parce que là, il a, vous l'avez dit, Ambre, des jeunes joueurs sous ses ordres.
Il n'y a pas un joueur qui est plus âgé que lui dans cet effectif.
Voilà, donc on ne va pas lui faire le reproche d'un manque d'expérience, d'un manque de pédigré en tant que joueur ou en tant qu'entraîneur. Mais des grands clubs se sont quand même déjà penchés sur son cas. Il aurait refusé le Real Madrid et même Dortmund penché sur lui. Ça fait un autre lien, une autre connexion avec Thomas Tuchel.
Bayern, Dortmund, je veux bien y croire, mais le Real parier sur Nagelsmann d'entrée, comme ça, ça me...
Il aurait été sollicité pour remplacer Zidane en 2018.
Ouais, ce qu'on dit sur lui aussi, c'est que bon, ça fait aussi peut-être une de ses forces, mais il y a une force aussi de forme de suffisance, même d'arrogance parfois chez lui. On l'a un petit peu comparé à Mourinho avant ce match dans ses attitudes. Il n'est pas forcément non plus toujours hyper apprécié en Allemagne.
Mais il est ambitieux, il le revendique.
Oui, mais après, moi, c'est pas un jugement de valeur. Mais c'est aussi c'est intéressant à souligner à propos de ce jeune entraîneur.
Et on va l'écouter, ce jeune entraîneur, et son appréciation du match d'hier où quand même il garde les pieds sur terre.
Ce n'était que le match aller. Il nous reste encore demi-temps et il faudra rester au même niveau. Je pense qu'aujourd'hui, nous avons été très bons et cette victoire est méritée. Nous devrons reproduire cela au match retour et avoir la même concentration. Je pense que les gars ont compris qu'il était possible de battre Tottenham dans leur stade et qu'il était donc aussi possible de les battre chez nous. Mais tout est question de performance et de maîtrise émotionnelle. Et je n'ai pas le sentiment que dans le vestiaire, après la rencontre, mes joueurs ont pensé qu'il était facile de battre Tottenham. Bien au contraire, le match retour sera compliqué, mais nous espérons bien sûr nous qualifier.
I hope we will go to the next round.
Alors on fera pas de pari, mais effectivement avec ce 1-0 et le match retour chez eux, eh bien ça risque d'être très chaud pour Tottenham.
C'est ouvert quand même.
C'est ouvert. Mais ce qu'on se disait tout à l'heure en préparant l'émission, notamment avec Hugo, avec Pierre Guérin et David Finzel, bien sûr, on se disait finalement dans ces soirées européennes, les petits ont eu raison des gros. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça?
En fait,
sur les quatre matchs.
Bah oui, parce que
moi non.
Enfin, en tout cas, les gros ont pensé à gros budget.
Bah, ou... Liverpool est le tenant du titre, le Paris Saint-Germain.
Liverpool renversé par l'Atlético.
Non, mais c'est le football qui a eu raison des gros surtout.
Oui.
Parce que c'est cohérent ce qui s'est passé.
Ah, non, mais
moi, je suis pas surpris
mais
que Leipzig.
Annie ne dit pas que c'est.
Non, mais je dis pas qu'ils jouent comme des pieds. Je dis juste les petits ou ceux qui n'étaient pas favoris.
Après, vous êtes un peu rattrapé par une certaine réalité, des paramètres. Après, c'est une confrontation, c'est qualification,
mais
c'est
surprenant.
Mais non, mais,
voilà, mais
le finaliste de la Ligue des Champions,
tu les as vus.
Le finaliste de la Ligue des Champions a perdu à domicile. Le vainqueur a perdu.
Mais c'est
à
le coquille vide
de Madrid
de la
qui a cherché un attaquant pendant tout l'hiver, ouais. Qui voulait Edinson Cavani, qui ne l'a pas eu. Le Paris Saint-Germain, que le Jurgen Klopp déclare être un candidat naturel à la victoire finale, fait un très mauvais match, mais un relatif bon résultat quand même à Dortmund. Qu'est-ce qu'on a eu? L'Atalanta Bergame, dont on ne connaît pas les limites. Aujourd'hui, on se demande s'ils vont pas aller en demi-finale comme l'Ajax l'année dernière. Excusez-moi.
Mais il y a rien de surprenant. Je veux dire.
Ah bon?
Tottenham, c'est une coquille vide.
Bah alors, vous ne vous y attendiez pas.
Ils perdent à l'Atlético. Je veux dire, ils ont pas perdu au Spartak Trnava, quoi. Je veux dire, à un moment, faut être sérieux. L'Atlético, l'année dernière, ils mettent un
mais ils vont pas bien en Liga en ce moment. Nabil, ils ont pas un super.
Et surtout Liverpool qui n'avait plus perdu un match depuis, je sais pas, une cinquantaine de matchs.
Qu'ils aient perdu, c'était justement des gens.
La Ligue des Champions, c'est une autre compétition. Je veux dire, ils perdent 1-0 à l'extérieur en Espagne. Bon, au retour, ils gardent largement la possibilité de revenir.
Mais on ne dit pas qu'au retour, ils vont le faire qualifier ou pas.
Attends, mais Tottenham,
on dit simplement que la semaine a été surprenante.
Non, mais je sais pas ce que je dis pas que c'est fait. Mais Tottenham, c'est un CV aujourd'hui. Sur le terrain, il se passe rien.
Bien sûr.
Donc. Ça, il faut aussi quand on analyse
bien
les
sûr,
choses.
Mais Mourinho a gagné combien de Ligue des Champions?
Le
3,
contenu et sur le contenu, je veux bien les noms.
Nabil,
parce que la vie, c'est pas qu'une question de noms.
On vous consultera avant la prochaine semaine.
Je peux vous
dire
ce qui va se passer. Hein.
En revanche, ce qu'on peut dire, c'est au moins qu'il y avait 3 des 4 matchs là où les leaders sont tombés entre guillemets, qui se passaient à l'extérieur aussi.
En plus.
Donc c'était. Après, il y a aussi au moins cette forme de logique là. Donc Borussia Dortmund, Atalanta et donc Dortmund. Et donc le match retour sera encore plus du coup chargé de suspense. Pour le
du coup, c'est fantastique. Ça laisse du suspense. Et...
Non, mais c'est disputé.
C'est plus désagréable, Ligue des Champions, quand c'est cousu de fil blanc.
Mais des leaders chez eux, au retour, attention, ça peut réserver quelques nouvelles.
La phase de poule, souvent, à la quatrième journée, elle devient ennuyeuse, quand même, Hugo.
On a déjà vu aussi des huitièmes de finale, déjà bouclées,
c'est plus équilibré.
Bah, des leaders qui jouent à domicile, il y en a un. Je crois que c'est le PSG, non?
Ah.
Vous reconnaissez cette musique de film?
Je crois que ça s'appelle...
C'est du coq,
Les Dents de la Mer, non?
Ah, c'est ça?
Non, c'est pas Les Dents de la Mer,
c'est
du Hitchcock.
Ah, c'est Psychose.
Psychose.
Ah, c'est Psychose.
Vous savez, le rideau, la salle de bain.
Comment elle s'appelle, cette actrice?
Mia Farrow?
Non.
Non, c'est la mère de Jamie Lee Curtis.
Janet Leigh. La mère de Jamie Lee Curtis.
Donc, 48 heures après... Le calme est-il revenu du côté du Paris Saint-Germain? Alors, dans la défaite, on a surtout critiqué la manière plus que le résultat. Vous le disiez, tout est encore possible le 11 mars prochain. En tout cas, il y a peut-être un malheur qui n'arrive jamais seul. C'est cette nouvelle qui est tombée ce matin, Ambre et Dominique, le président du club, qui incarne le propriétaire ici en France depuis 2012, depuis qu'ils ont racheté ce club, c'est Nasser El Khelaifi, inculpé par la justice suisse dans une affaire de corruption liée à l'attribution de droits TV de la Coupe du Monde. Alors c'est plutôt, il est... Évidemment, président du PSG, mais c'est au titre de responsable de beIN Sport qu'il a été inculpé.
Je n'ai pas tout compris, mais je crois qu'en fait c'est plutôt une bonne nouvelle puisqu'il y a un abandon des charges par la justice suisse dans ce qui est c'est plutôt Monsieur Val qui est concerné au premier titre, Jérôme Valk, le français, pour une location de maison, ça. Et je crois.
Une maison pour lui.
Ancien secrétaire général de la FIFA. Voilà,
il a laissé les clés sous le paillasson.
Et je crois que, parce que j'ai vu le communiqué des avocats de Nasser, c'est plus compliqué que la simple inculpation.
Non, mais c'est compliqué. C'est,
les nouvelles seraient plutôt bonnes concernant Nasser Al-Khelaifi. Ah, bon, c'est ce que j'ai compris. Hein.
Donc c'est pas trop gênant.
Non, c'est, visiblement, on est dans un processus qui était attendu.
Mais c'est pas mais c'est quand même une histoire de conflit d'intérêt, je veux dire, oui, son image, elle est quand même associée.
Je crois qu'il y a abandon des charges de corruption le concernant.
Oui, mais tout le monde n'a pas votre rigueur, tout le monde ne lit pas précisément tous ces textes. Dominique, ça peut créer quand même encore un petit peu troublé l'image du
Paris Saint-Germain. Mais qu'est-ce qui ne trouble pas déjà même l'image de la FIFA, déjà aussi? Qu'est-ce qui ne trouble pas les attributions des Coupes du Monde ces dernières années?
Au PSG,
c'est tellement opaque.
Ils ont suffisamment d'ennuis et Nasser Al-Khelaifi a suffisamment pris de recul quand même depuis 8 mois où on le voit quasiment plus, on ne l'entend plus. Leonardo prend toute la lumière, prend toute la place et s'occupe de
c'était d'ailleurs une des conséquences parce qu'on savait qu'il était déjà dans cette affaire, en tout cas soupçonné par la justice.
Tout à fait. Il est aussi dans d'autres affaires en France avec le pôle financier qui l'interroge parfois ou de temps en temps. Donc voilà, aujourd'hui, il est un petit peu mis de côté de lui-même. Il s'est mis en retrait et je pense que le club a trouvé que c'était bien de pas trop s'exposer. Et donc, c'est Leonardo qui prend toute la lumière et qui fait la communication du club aujourd'hui avec Thomas Tuchel, évidemment.
Alors,
et
justement...
Neymar. Il fait la communication. Neymar
s'invite en...
Il est transparent et il dit la vérité, donc il fait un peu la communication.
Justement,
aussi.
Moi, j'aimerais vous poser la question, et vous, Ambre, qui étiez au match. Est-ce qu'on en a trop fait ou trop dit autour de la défaite de Dortmund, qui a eu lieu à peu près il y a 48 heures?
Alors, il y a deux lectures. Je vais penser au sens global et je comprends. C'est-à-dire, je comprends un peu la psychose, entre guillemets, pour rebondir sur la musique. Je comprends la déception parce qu'elle est à la hauteur de l'espoir qu'on mise à chaque fois sur le Paris Saint-Germain. Et là, tout le monde pensait qu'il y aurait, voilà, avalanche de buts, le fameux quatuor offensif, une équipe qui va s'éclater face à Dortmund. Rien n'a été le cas. Il n'y a pas eu la tactique, il n'y a pas eu l'avalanche de buts. Et en plus, il y a eu défaite. Donc, je comprends. Après, à titre personnel, moi, je pense qu'il ne faut pas trop en faire parce que je pense que on a parlé de tous les leaders qui sont tombés face à des outsiders. De tous les leaders qui sont tombés, c'est le Paris Saint-Germain qui a la situation la moins défavorable, hein, clairement. Parce que eux, ils ont mis un but à l'extérieur, ce qui n'est pas le cas de Liverpool. Les autres qu'on a cités, par exemple, Tottenham, ils sont dans une situation beaucoup plus défavorable. Il y a des clubs qui sont...
Tottenham, ils n'ont pas deux des quatre meilleurs joueurs de la planète.
Je parle pas de moyens, je parle vraiment... Le résultat, est-ce qu'il va donner au match retour? Eh bien, c'est le Paris Saint-Germain qui est dans la situation la moins défavorable de ceux qui ont perdu. Donc forcément, ça me permet, moi, en tout cas à titre personnel, de nourrir des espoirs sur la revanche des Parisiens. Et pour rebondir sur Neymar, je mets Mbappé dans le même lot. Je pense que le duo, s'ils sont piqués dans leur orgueil, c'est finalement la meilleure chose qui peut arriver au Paris Saint-Germain. Parce qu'ils auront une réponse et ça devrait être les guides au Parc des Princes pour montrer qu'ils sont des joueurs de la dimension qu'ils prétendent être.
Nabil, voilà. Est-ce que vous pensez que piqués dans leur orgueil, ça peut changer le match surtout par rapport à ce qui s'est passé, par rapport à ce qu'on a vu sur le terrain, est-ce que vous pensez qu'on a été trop sévère dans les analyses
suite à ce match? Non, Annie, en fait, il y a deux choses. Il y a le contenu et on a le droit effectivement de dire que le Paris Saint-Germain a raté son match, a été battu à la régulière et que le score est presque flatteur pour moi.
Ça c'est
du football de manière, mais c'est pas un club normal, le Paris Saint-Germain. C'est l'après-match est pire que le match presque. Non mais c'est ça en fait, c'est le contexte. Il y a aucun climat de sérénité. Évidemment qu'avec de tels joueurs, vous pouvez leur en coller trois au retour parce que voilà, il suffit que avec le Parc des Princes, l'Allant, oui l'orgueil de ses champions. Neymar, peut-être que si on décide de le faire jouer et qu'il a un peu de rythme, peut-être qu'il sera meilleur par exemple. Oui évidemment que le Paris Saint-Germain peut retourner la situation, mais quand même, encore une fois, et je suis désolé de le dire ici, c'est à chaque fois, on est là avec du... Limite, si vous êtes là avec du pop-corn, qu'est-ce qui va encore se passer? Non, mais c'est extraordinaire.
Oui, c'est un bon...
Non, mais c'est... Netflix n'aurait pas écrit ça.
C'est beaucoup mieux. La vraie vie, c'est toujours mieux, Nabil. La vraie vie, c'est toujours mieux que la fiction.
Vous avez des conseils à me donner, Dominique?
Je vous expliquerai.
Alors, justement, Dominique, il y a ces psychodrames après le match, effectivement. Et vous l'écrivez très bien aujourd'hui dans le journal. Personne ne voulait avoir la responsabilité
ça, c'est la patate chaude.
De la défaite. Neymar Neymar qui s'est on l'a écouté hier parlant du fait qu'il n'était pas dans le rythme et que le club l'avait empêché de revenir sur le terrain avant. Eh bien, écoutons aujourd'hui ce qu'a déclaré un de ses camarades, ni plus ni moins que Lionel Messi à Barcelone. Il a donné une interview au journal Mundo Deportivo. Ça a été publié aujourd'hui, ça ne veut pas dire que ça a été enregistré après le match. Mais voilà ce qu'il dit de son copain Neymar.
C'est un des meilleurs du monde.
Neymar est l'un des meilleurs joueurs du monde et cela m'enchanterait qu'il revienne. Je crois qu'il est impatient de retourner au club. Il a toujours montré des regrets d'être parti comme ça. Il a beaucoup fait pour revenir et c'est la première étape pour y parvenir.
Voilà ce que dit donc son ami Messi. Messi dit c'est un des plus grands joueurs du monde et je crois qu'il est impatient de revenir.
Ah, je crois que dans la situation.
Est-ce que c'est rajouter quelque chose rapport à ce feuilleton Neymar ira-t-il ou pas?
Parce qu'en fait, il vous a pas échappé, Annie, que quand Neymar fait cette sortie. Qui pour moi est en tant que journaliste elle est géniale parce que ça nous donne du grain à moudre, mais elle est scandaleuse d'un point de vue.
C'est une trahison.
C'est-à-dire qu'il est nul sur le terrain et il vient dire c'est pas de ma faute, c'est celle des autres, et notamment celle de Leonardo. En fait, c'est la suite de la guerre larvée avec Leonardo depuis le début de saison. Donc je vous la fais vite, il voulait aller à Barcelone, il considère que Leonardo n'a pas voulu ouvrir la porte d'un transfert qu'il a mal négocié, qu'il a fait semblant de négocier. Leonardo lui a dit tu parles pas français, va respecter les règles comme tout le monde. Voilà, il l'a pris à partie devant tout le monde. Ça, Neymar, il a de la mémoire, il n'a pas oublié. Donc aujourd'hui, son entourage quand même a appelé toutes les rédactions hier pour bien nous faire savoir que c'était bien Leonardo qui était visé. Donc voilà, c'est comme ça que ça se passe. C'est-à-dire que l'entourage de Neymar appelle. Vous avez vu la déclaration de Neymar à Dortmund. Vous savez pas qui c'était. Nous, on vous le dit. C'est Leonardo qui est visé. Donc voilà. Et on raccroche et on dit, non, vous faites ce que vous voulez. Hein, vous l'écrivez. Mais
comment le club a-t-il pu autoriser Neymar à aller s'exprimer devant les médias après?
Neymar s'est invité, Hugo. Il y a le service communication qui fait très bien son travail au Paris Saint-Germain. Et puis,
c'est plutôt au compte-goutte, les joueurs.
Généralement, les joueurs sont un peu, entre guillemets, sélectionnés pour aller en zone mixte. Là, c'était assez particulier la configuration de la zone mixte parce qu'ils avaient placé le quart et en fait, les joueurs devaient passer devant les journalistes pour aller au quart. Quoi qu'il arrive, ils ne pouvaient pas y échapper. Il n'y avait pas de porte de sortie. Donc, les joueurs qui avaient envie de s'arrêter, c'était pas forcément contrôlable.
Mais il avait un message à délivrer. Donc, il avait envie de dire ça pour expliquer que s'il est mauvais ce soir-là, c'est pas complètement de sa faute. Voilà. Après, renseignement pris. Le club lui a dit qu'il avait une fissure au côte, donc une lésion chondrocostale, que ça durerait 12 à 15 jours, et que c'est pas Leonardo qui a pris spécifiquement la décision. Leonardo a dit, on respecte le protocole. S'il y a 12 à 15 jours d'arrêt, on verra. Donc, ça coïncide à peu près entre Amiens et Dortmund, sa reprise. Amiens, c'était peut-être un peu risqué, parce que si vous tordez la cheville, là, vous êtes sûr qu'il jouera pas à Dortmund. Donc, ils l'ont fait reprendre à Dortmund. Évidemment, il manquait de rythme. Mais ça, c'était le risque à payer.
Dominique, avec les pop-corns de Nabil, est-ce que jusqu'au 11 mars, ça va être un feuilleton comme ça, ou est-ce que les choses vont se calmer préparer le match retour?
On est à l'abri de rien avec ce club.
On est à l'abri de rien. A priori, elles vont se calmer. Le seul truc qui m'inquiète, c'est une blessure d'un joueur majeur. Comme ce club réagit très très mal face aux blessures, Dortmund avait deux joueurs titulaires blessés, on n'en a jamais entendu parler, ils n'ont jamais avancé ça comme excuse.
Et non des moindres, Reus, le capitaine, et Brandt qui était pratiquement le meilleur joueur.
Exactement, et là, alors qu'à Paris, si Mbappé, si Di Maria, si Neymar, si Thiago Silva, si Navas se blesse d'ici le 11 mars, mais on va parler que de ça, et la psychose va revenir, et comme c'est un club qui psychote, donc ça va continuer, quoi.
Ambre, qu'est-ce que vous croyez? Trois semaines où on se met la tête dans le gazon?
Non, mais je suis totalement d'accord avec Dominique. Pour moi, le spectre, c'est la blessure, principalement. Après, ça va se calmer. Je pense que le club a retenu aussi les leçons du passé. Ils vont pas forcément essayer de chercher trop à communiquer, trop d'haranguer, trop de négativité non plus. Faut juste pas basculer dans l'excès d'un sens comme dans l'autre. Les blessures, c'est la pire chose qui peut arriver. Et c'est aussi pour ça que Neymar avait été mis sous cloche, je pense.
Nabil, votre avis?
Sur le PSG?
Ou sur Psycho?
La musique revient.
Moi, je suis au cinéma, avec la musique, avec des pop-corn, je regarde.
Et le pire, c'est qu'il peut se qualifier dans tout ça.
Je vais te dire un truc. Il peut même gagner la Ligue des Champions.
Non, là, faut pas s'emballer.
Si, normalement, ils vont mettre sous cloche Neymar jusqu'à la finale.
C'est la fin de ce Radio Foot International. Merci beaucoup, ceux qui revenaient, Dortmund et les autres, d'y avoir participé. Merci à David Finzel, à Pierre Guérin et à Alice Ménard à la réalisation. À demain.